Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Solène Robin.
Bonjour, Au fil des pages s'intéresse aujourd'hui à une manifestation qui, malgré sa récente intronisation en France, est connue de tous. Fêter le 31 octobre, veille de la Toussaint, c'est bien sûr Halloween dont je vous parle. Nous recevons aujourd'hui notre collaborateur Damien Leguet, qui a publié en 2003 « La face cachée d'Halloween » aux éditions du Cerf. Bonjour Damien.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes philosophe, critique littéraire, notamment au Figaro Magazine. Avec La face cachée d'Halloween, vous signez votre premier ouvrage. C'est devenu un véritable succès de librairie. Un ouvrage qui vous a valu de nombreuses sollicitations dans les médias lors de sa sortie. Vous réfléchissez sur les fondements d'Halloween pour nous offrir, en quelque sorte, une tirade contre sa célébration. Halloween, c'est un peu, à vos yeux, la consécration d'un abandon des valeurs religieuses et d'une société consumériste dont vous dépeignez les travers. Nous allons y revenir plus précisément. Quelques éléments factuels pour commencer, empruntés à votre ouvrage. Alors en premier lieu, Halloween, c'est un marché estimé à plus de 4,5 milliards d'euros dans le monde et plus de 60 millions d'euros en France. Première question succincte pour vous, Damien Leguet. C'était en 2002, vous qui vous désolez du succès d'Halloween, avez-vous connaissance des chiffres actuels ?
Non, mais je pense que ça n'a pas beaucoup bougé mondialement. En France, ça a un peu baissé, mais enfin mondialement, ça reste à peu près dans la même zone, j'imagine.
Surtout dans les pays anglo-saxons, j'imagine.
Surtout dans les pays anglo-saxons, où effectivement, la pénétration d'Halloween est assez forte, et ce, depuis longtemps. On pourra revenir dessus, si vous voulez.
Alors, la fameuse fête celtique de Samhain est supposée être à l'origine d'Halloween. Or, son existence, elle, remonte à plus de 2000 ans, lorsqu'on célébrait le changement d'année aux alentours du 1er novembre. Pouvez-vous nous dire quel est le rapport exact entre Halloween et la fête de Samhain ?
Alors, il faut bien considérer que les États-Unis sont un pays qui aime à recycler ce qui vient de ses immigrés. Donc, Noël est venu comme ça. Donc, c'est aussi Saint-Nicolas qui a été recyclé par les Américains en Père Noël. Et la fête de Samhain, donc, est venue avec les Irlandais et donc a été transformée, acclimatée et transformée par les États-Unis pour devenir Halloween. Voilà. Donc, on retrouve dans la fête d'Halloween, tout le monde, tous ceux qui connaissent la fête de Samhain le reconnaissent, on retrouve dans Halloween des éléments extrêmement précis de la fête de Samhain. Voilà. La fête de Samhain, donc, c'est celle qui intervenait à la fin de l'été, au début de l'hiver, dans ce jour un peu particulier, où rôdaient les esprits venus du fond de la terre. Et si on ne leur offrait pas un ensemble de sacrifices, par l'intermédiaire des druides, à ce moment-là, les esprits pouvaient emmener des vivants dans la région des morts. Donc, tous ces éléments-là, on les retrouve de façon ludique dans la fête d'Halloween.
Mais alors, à quelle époque est-ce que ça s'est, la transition s'est effectuée ?
Alors, la transition s'est faite au moment où les Irlandais sont venus d'Irlande aux États-Unis, c'est-à-dire à partir de 1880 jusqu'en 1910. C'est-à-dire que le transfert des Irlandais d'Irlande aux États-Unis est consécutif à un certain nombre de maladies qui ont infecté la pomme de terre. Et la pomme de terre a entraîné la famine, l'exode. Sur les États-Unis, et à ce moment-là, c'est constitué cette implantation très forte de la communauté irlandaise là-bas, et donc cette acclimatation de la fête de Samhain qui existait toujours, à la fois sur le mode chrétien, parce que la société américaine est une société chrétienne, d'une part, et deuxièmement, du côté ludique, voilà, que nous retrouvons aujourd'hui dans la fête d'Halloween.
Mais alors la distribution, la fameuse distribution de bonbons, les déguisements des enfants, est-ce que ça c'est ancien aux États-Unis ou c'est relativement récent ?
Non, tous les éléments sont présents. Simplement, et c'est ce qu'on va voir par exemple pour la France, mais tous les éléments sont présents et chaque pays adapte un peu selon sa composition, selon son intérêt particulier. Disons que pour les États-Unis, la fête est beaucoup plus familiale, elle ressemble plus à une fête de carnaval. Qui dit carnaval dit un moment de libération dans un calendrier extrêmement chrétien. Voilà. En France, les choses sont très différentes. On a très vite insisté, très tôt, sur un côté un peu gore, un peu vampire. J'ai relevé comme ça un certain nombre de produits qui ont été commercialisés à ce moment-là, des marshmallows fourrés au sang de vampire, des carambars assortiment diabolique, etc., etc. Bon, donc tous ces produits-là, alors ça, c'était le plus ludique, entre guillemets. Mais il y a eu aussi des épées, des têtes de vampires, du sang, etc. Donc, la France, enfin l'implantation en France de la fête d'Halloween a insisté beaucoup plus que pour les États-Unis sur le côté vampire, sanguinolent, etc.
Mais alors, les déguisements aux États-Unis, juste pour la précision, est-ce que, par exemple, dans les années 50, on pouvait voir des enfants se déguiser et aller demander les fameux trick or treat
Oui. Enfin, le déguisement a toujours existé. Le problème, c'est le sort, justement. À l'origine, c'est bien un échange, voilà, entre le druide et celui qui est sauvé. Voilà, il y a bien un don contre une préservation du druide, du mauvais sort ou de l'esprit mauvais qui est censé rôder. Voilà. Ça a été transformé, effectivement, par un bonbon ou un sort. C'est-à-dire que effectivement l'enfant est investi par ce simulacre, par ce jeu, hein, est investi d'un pouvoir capable de protéger l'adulte du mauvais sort. Donc, est-ce qu'on est dans l'échange? Est-ce qu'on est dans le deuxième degré? Ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui relève du pouvoir, de la toute-puissance que peut avoir l'enfant, même de manière fantasmatique et même imaginaire, à l'égard de l'adulte?
Voilà, voilà, ça, donc... c'est une question un petit peu plus philosophique sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard, puisque en tant que philosophe, vous êtes à même de nous en dire davantage. Mmh. Je vais donner quelques petites précisions qui sont issues de votre ouvrage sur l'avènement de cette fête des citrouilles en France. Si l'on peut parler d'avènement, évidemment, il remonte à 10 ans à peine, puisque les prémices remontent à 95. En fait, c'est dans l'est de la France qu'Halloween débarque en premier. Alors à cette époque, la fête est peu suivie, ainsi que l'année suivante. Mais en 97, relayée par France Télécom et une grande distribution de potirons au Trocadéro, tout le monde s'y intéresse. 98 marque la consécration du mouvement. Les médias s'y mettent aussi pour prôner cette fête dédiée aux cucurbitacées. Alors, vous critiquez justement beaucoup le rôle des médias. Ils soutiennent, vous le dites, les dérives d'une société consumériste. Est-ce que vous pouvez nous préciser ?
Alors, il y a deux choses. Il y a le basculement d'une fête qui était à l'origine une fête américaine, et qui l'est toujours, et donc qui était fêtée essentiellement par la communauté américaine. Donc, il y a des traces, même dans les années 50, de petits groupes comme ça qui fêtaient Halloween, mais vraiment en souvenir, enfin, de... voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe à partir de 97-98? C'est qu'il y a un basculement dans le côté marchand. Pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes effectivement... il y a un creux, si vous voulez, pour les marchands, entre la fin des vacances et donc la rentrée des classes, et puis Noël. Voilà. Et donc Halloween, c'est une façon, tombe bien. On peut réactiver la machine festive qui se met en place tout le temps. Et puis, ça suppose des achats, des bonbons, des machins, des trucs comme ça. Bon, voilà. Donc, il y a un positionnement qui a été voulu, sciemment voulu par tous ceux qui cherchent à promouvoir la vente des produits, la festivisation du calendrier tel qu'il existe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu à ce moment-là un certain nombre de compagnies, et en particulier effectivement France Télécom, qui se sont emparées de ce thème-là pour promouvoir, en l'occurrence, un téléphone. Donc, c'est rentré d'une certaine façon dans le bruit médiatique, enfin, dans le bruit publicitaire. Voilà. Alors, pour répondre à votre question sur les médias, j'ai été effectivement assez étonné, quand on regarde ça dans le détail, de voir la différence entre ce qu'en disaient les médias et la répercussion réelle de la fête. Les médias ont joué, comme toujours, pour Halloween, comme pour autre chose, un rôle de caisse de résonance. C'est-à-dire, d'une certaine façon, ce qu'il disait était un peu de l'information, mais surtout avait un caractère prédictif. C'est-à-dire qu'il importait que nous soyons tous associés à cette fête, et le fait de le dire créait l'événement plutôt qu'il ne le constatait.
C'est ce que vous dites, notamment, vous citez beaucoup un article du Monde qui vient dire aux gens « Venez fêter Halloween, sinon... » Grosso modo, vous êtes ringard.
Alors, non seulement vous êtes ringard, ça vous n'êtes pas dedans, mais en plus, ce qui est frappant quand on regarde dans le détail les chiffres et les années, c'est qu'ils ont devancé d'une certaine façon un phénomène qui s'est développé un peu postérieurement à ce qu'ils disaient. Donc, d'une certaine façon, il y a eu de l'information, non pas mensongère, mais de l'information publicitaire. C'est-à-dire qu'on croyait que c'était de l'information et qu'il fallait être dans le coup. Et pour être dans le coup, il fallait effectivement fêter Halloween. Mais en réalité, le développement d'Halloween existait ou se propageait en même temps que les médias l'annonçaient. Voilà. Donc, il y a un effet de caisse de résonance médiatique qui, à un certain moment, considère que Halloween est dans le paysage. Voilà. Et quand il est dans le paysage, à ce moment-là, il faut être dedans. Ce qui se retrouvera d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire quand il y aura, et on pourra revenir sur l'historique, mais reflux d'une certaine façon d'Halloween, à ce moment-là, les médias aussi pourront se désintéresser. Donc, il y a un effet de, comment vous dire, de saturation. Voilà. À partir d'un certain moment, le langage médiatique considère qu'un phénomène s'est imposé, alors qu'il n'est pas économiquement ou culturellement ou dans les faits, il n'est pas complètement là. Voilà. Donc, il le pousse en même temps qu'il l'annonce.
Alors justement, vous parlez du rôle des médias par rapport à la diffusion et au développement de la fête d'Halloween. Vous parlez également des récepteurs des médias. Vous parlez de la faiblesse des pauvres gens. Et vous expliquez également un autre endroit. Alors, est-ce qu'on a un choix par rapport à Halloween? Et vous dites, il faut être un surhomme, un bourreau d'enfants ou un tyran domestique pour donner à ses enfants le choix. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que vous accusez les gens de naïveté, de manque d'opinion propre, ou est-ce que ces personnes sont victimes du système?
Non, je crois que nous sommes arrivés à un moment donné où, disons, tous les contrepoids qui pouvaient exister pour que les individus se forgent eux-mêmes leur propre opinion ont progressivement disparu, ou du moins, elles existent encore, mais ont perdu de leur importance, au profit de la scène médiatique, qui, elle, a un pouvoir de persuasion qui est extrêmement fort. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et ce qui veut dire que, quand les médias nous persuadent que, effectivement, tel phénomène est un phénomène qui existe, et ils en persuadent à la fois les enfants et les parents, il est difficile d'aller à contresens.
Je dirais presque qu'ils en persuadent les enfants d'abord, puisqu'on dit souvent que dans les familles, ce sont les enfants qui amènent les règles au sein du foyer.
Oui, c'est-à-dire qu'ils en persuadent tout le monde de manière, effectivement, à ce que les parents, dans leur rôle d'autorité, ont du mal à résister. C'est-à-dire qu'on est dans une société où, de plus en plus, la contrainte médiatique, le diktat médiatique, l'impératif médiatique est de plus en plus important. Voilà. Et ce qui fait que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont à l'encontre de cela, vont à l'encontre du mouvement, de ce que l'on doit faire. Voilà, je crois que c'est un phénomène extrêmement récent. Il s'explique à la fois par le développement de la télévision, qui est de plus en plus présente, d'une part, et deuxièmement, par l'absence de plus en plus grand de contrepoids susceptibles de contrebalancer l'impact médiatique de ce que disent les leaders d'opinion, que sont ceux qui tiennent la télévision.
Très bien. Alors, justement, l'impact sur les enfants d'Halloween et puis le rôle positif ou négatif que cette manifestation peut jouer, on y reviendra en troisième partie. Mmh. Nous allons évoquer maintenant la question de la religion, puisqu'elle est au centre de votre ouvrage également. Vous écrivez au tout début de cet opus « Les citrouilles ont eu raison des chrysanthèmes ». C'est une phrase très forte. Vous écrivez également un petit peu plus tard « L'éloge de la citrouille n'étant pas neutre, il va de pair avec une critique des fêtes de la Toussaint. Nous sommes en 98, l'invasion des citrouilles est encore récente, mais semble évidente. Mmh. » Justement, avec le temps, est-ce qu'on ne va pas scinder Halloween et la Toussaint comme deux manifestations totalement distinctes?
Alors, je dirais deux, trois éléments. Le premier, c'est que, contrairement à ce que vous avez dit au début, mon propos n'est pas sur l'abandon du religieux. Mon propos, en ce qui concerne Halloween, est sur le retour d'un religieux archaïque. Voilà. D'un religieux plus archaïque, que l'on voit dans Halloween, que l'on voit dans des séries télévisées comme Buffy, dans des films comme, par exemple, Harry Potter. Enfin, voilà, tout ce monde d'avant la religion chrétienne, pour le dire comme cela, dans nos zones d'Europe, reviennent en force. Le monde de la magie, le monde des pouvoirs occultes, le monde des sorts que l'on jette, etc., etc. Voilà. Et maintenant, alors on ne voit que cela dans l'imaginaire télévisuel. Et Halloween, me semble-t-il, participe de ce retour de ce qu'on appelle le paganisme, il faut définir, mais d'une religion qui, effectivement, est plutôt basée sur le destin, sur le sort, sur la fatalité, sur les sorciers, sur le mauvais sort, sur les mondes parallèles, etc. etc. Voilà.
Alors justement, c'est une distinction que vous faites dans votre ouvrage. Est-ce que c'est une religion et c'est une forme de symbolisme distinct de la religion?
Nous sommes là dans une religion. Enfin, le père Daniel Loup, qui était membre de l'Académie française, disait bien que nous naissions tous païens et que le paganisme, c'était notre première religion. Voilà. Première religion aujourd'hui, même aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut considérer le paganisme et donc la religion celte et donc sa main comme une forme de religion. Pas celle auquel on est habitué, enfin, que l'on voit habituellement. Voilà, donc, mais les religions constituées, les religions monothéistes, ne sont pas les seules religions possibles. Bon. Et il m'a semblé, à l'occasion de cette fête d'Halloween, qu'il y avait comme une méprise, ou comme un oubli, ou comme une cécité de nos leaders d'opinion, et en particulier des écoles et des institutrices qui ont poussé la fête d'Halloween, pour ne pas voir que cette fête avait des sous-jacents religieux. Un religieux archaïque, mais un religieux quand même.
Alors, on reviendra plus tard sur le rôle de l'éducation, mais vous pensez réellement que les institutrices ont poussé au développement de festivités liées à Halloween de manière volontaire pour occulter la religion ou simplement par méconnaissance de la religion chrétienne?
Ah non, moi je ne suis pas partisan, enfin je suis pas. Enfin, j'imagine pas qu'il y ait des complots partout. Donc je dis simplement qu'il y a effectivement une méconnaissance de la part de l'éducation nationale, pour ne pas la citer, du religieux, voilà, de toutes les formes de religieux possibles. Et que la laïcité, pour ne pas la mettre en exergue, s'est constituée non pas contre le religieux, mais contre la religion dominante et, en l'occurrence, le christianisme. Et donc, que ce combat des deux France, hein, comme disait l'autre, ce combat des deux France s'est fait contre le christianisme. Et donc, quand il y a autre chose, d'autres manifestations, d'une certaine façon, ces manifestations du religieux ne sont pas vues comme telles. Voilà. Et pour le dire autrement, d'une certaine façon, les marchands se sont emparés de ce thème-là, donc se sont emparés du religieux et de ce religieux archaïque-là, sans savoir que c'était du religieux. Voilà. On peut dire que les marchands font la promotion du religieux sans savoir que c'en est. Pourquoi ? Parce que ils considèrent d'une certaine façon, un, que la marchandise est capable d'effacer d'une certaine façon tous les éléments du religieux présents dans ce qu'ils vendent. Voilà, comme s'il y avait un effet d'effacement, de lavement, et que ça disparaissait, première chose. Et deuxièmement, on en est tous sur le principe du second degré. La fête d'Halloween, c'est à la fois pas grand-chose, c'est à la fois une fête pour en rire, pour les enfants, etc., etc. Bon, mais c'est aussi des éléments sous-jacents du religieux. Et comme on est, comme nous vivons sous une forme de dictature du second degré, tous ceux qui le prennent au sérieux sont renvoyés à l'idée suivant laquelle ce n'est pas sérieux. Eh bien, moi, je prétends que même si ce n'est pas sérieux, il y a derrière ce second degré, un premier degré ou des éléments qu'il faut prendre en considération. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre.
Justement, vous allez, après la courte pause que l'on va marquer, vous allez nous expliquer est-ce que Halloween a tué la fête de la Toussaint. Alors, nous marquons une courte pause et nous retrouvons tout de suite après.
Une citrouille ou bien un chrysanthème, tout s'embrouille. En novembre, c'est un dilemme, fait-on les morts? La Toussaint ou Halloween, mais trop de corps. Agite mon calme spleen, grotesque parade à la traîne. Et tous ces visages faussement blêmes, pourquoi se mettre en costume? Mes pensées ne sont que posthumes.
Nous reprenons le cours de notre émission consacrée à Halloween. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui Damien Leguet qui a écrit un ouvrage consacré à Halloween qui s'intitule « La face cachée d'Halloween », publié en 2002. Damien Leguet, un de nos collaborateurs à Canal Academy. Alors nous parlions de la question de la religion et de la Toussaint face à Halloween. Halloween qui tuerait cette fête anthologique, cette fête qui a son existence avérée en France depuis des années, des siècles. Alors, je me permets de citer un passage du Monde que vous évoquez dans votre ouvrage. Vous dites « Les religions peinent à admettre qu'elles n'ont plus l'initiative des fêtes collectives ni le monopole du réservoir symbolique propre à toute société. » Enfin, c'est le Monde qui cite ceci. Vous dites que les hommes ont besoin de rites et de repères. Alors, si l'on considère, de façon un petit peu provocative, l'affluence dans les églises catholiques les jours de messe ou de culte pour la religion protestante, n'est-ce pas la conséquence logique que les rites se sécularisent petit à petit et qu'ils ne soient plus l'apanage de l'Église ?
Alors oui, enfin, il y a plusieurs sujets dans ce que vous dites. Le premier, c'est que le monopole des fêtes. Alors, il est vrai que nous assistons, et je pense en particulier au travail de Philippe Meret, qui est mort malheureusement depuis, mais qui a bien montré cet homo festivus que la société, à la fois la société marchande, mais à la fois la société civile, enfin la société urbaine, enfin bon, et M. Delanoë, qui multiplie à l'infini les fêtes à Paris, est là pour l'illustrer. Donc ce développement, effectivement, d'un monde et d'un calendrier de plus en plus festif. Bon, alors, il est vrai que le monopole des fêtes, pour autant qu'il n'y ait jamais eu un monopole des fêtes, enfin bon, c'est un autre débat, mais n'est plus l'apanage de la religion. Ceci dit, et je voudrais insister là-dessus, c'est pour ça que ça m'a un peu agacé quand les médias ont effectivement fait la fête d'Halloween, c'est que vous avez deux choses différentes. Vous avez la Toussaint. La Toussaint, on n'en parle jamais, ou peu, ou très peu.
Je crois... ça fait longtemps qu'on en parle peu.
Alors on en parle sans en parler. C'est-à-dire qu'on en parle toujours, c'est toujours des sujets qui gênent ou qui fâchent. On en parle toujours, petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire les chrysanthèmes. Alors, les chrysanthèmes, c'est un sujet permanent qui revient au moment de la Toussaint.
Alors, je vais être un peu provocatif volontairement, mais est-ce que vous ne pensez pas, pour la majorité des gens, la Toussaint, pour les plus jeunes générations au moins, c'est devenu un pont et... L'occasion de prendre quelques jours de congé, comme les autres.
Certainement. Mais j'ai découvert, à l'occasion de cette enquête-là, je vous retournerai la question, toujours pour être provocateur, mais c'est sur le nombre de personnes qui se déplacent au moment de la Toussaint et qui, d'une manière ou d'une autre, vont se recueillir sur la tombe de leurs ancêtres, de leur grand-mère, etc. etc. Voilà. Alors, je vous donne la réponse tout de suite, comme ça évitera de chercher. Mais on est, entre une année ou l'autre, on est de l'ordre de 35 millions de Français. Donc, il y a à peu près la moitié des Français, si ce n'est plus, qui, soit une année, soit l'autre, vont faire cette démarche active. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène de masse qui est complètement occulté par les médias.
Je vais en rajouter. Est-ce que vous ne croyez pas que ce sont les grands-mères qui emmènent leurs enfants, leurs petits-enfants sur la tombe de leurs aïeux?
Ah, mais que ça soit les grands-mères qui, ce qui est normal, font des transmissions de mémoire, permettent d'inscrire une mémoire familiale dans une continuité. Voilà. Ça, c'est une chose. Et je crois effectivement que c'est toujours les survivants qui doivent, à l'égard des nouveaux venus, les introduire dans un monde de continuité. Bon. Mon étonnement ne portait pas tellement là-dessus. Il portait plutôt sur ce phénomène dont on parle, c'est-à-dire ce phénomène de masse, hein, ce phénomène de masse, ce nombre absolument impressionnant de Français, et ça n'a pas changé depuis des années, qui font une démarche active et se rendent dans les cimetières, sur les tombes, au moment de la Toussaint. L'occultation par les médias de ce phénomène-là, qui est un phénomène de masse, et parallèlement à cela, la promotion d'une fête festive assez creuse, et dont on verra bien par la suite qu'elle a effectivement été un peu rejetée par les Français, considérant qu'elle était effectivement plus... marchande qu'elle n'était véritablement festive. Donc c'est là où il y a la limite de ce monopole, hein, ce monopole de la fête qui serait repris en main par qui ? Ben, par les marchands et non pas par le religieux. Bon. Et donc on aboutit à la promotion de la marchandise et non pas à la promotion de la fête. Bon. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que c'est ce passage de l'un à l'autre, cette absence de traitement, cette différence de traitement de la Toussaint d'une part et d'Halloween d'autre part, qui m'a extrêmement étonné, si on considère, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, que les médias sont là pour informer, pour refléter ce qui se passe.
Alors, ce n'est pas une première dans la société, justement, vous l'évoquez dans votre ouvrage en parlant de la question de Noël. Vous intitulez même un paragraphe « Éviter l'escamotage religieux, le précédent de Noël ». Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, je me permets de préciser que vous avez fait une description assez délirante et hilarante du Père Noël qui s'invite à la table du petit Jésus au début de votre ouvrage. Alors, je cite juste une ou deux phrases pour donner envie à nos auditeurs. Vous dites qu'un jour, rentrant sans frapper, le Père Noël a fait irruption dans la crèche et il dit « Coucou, hello friends, it's nice home here », dit-il à Joseph et Marie interloqués. Et ensuite, il dira même au petit Jésus, qui s'étonne de voir les cadeaux, les jouets qui débarquent autour de lui, il lui dira « Mais c'est le businessman, je suis le Père Noël des enfants et des commerçants, man ». Alors justement, parlez-nous-en un petit peu on va dire, la sécularisation de Noël, qui n'est plus aujourd'hui, qui est aujourd'hui une fête laïque, vous pouvez le dire quand même.
Non, alors il y a deux choses. Je pense que le besoin du religieux en tant que tel, c'est-à-dire le calendrier est encore chrétien. Voilà.
Mais on voit qu'il y a beaucoup de gens qui assistent encore à la messe de minuit tous les ans en famille au moment de Noël. Il n'y a pas une dualité, une coexistence des deux événements ?
Oui, c'est-à-dire que on est toujours dans cette idée qu'il faut repérer la religion par la pratique. Et donc, on dit, il y a 5%, 6%, 7% de Français qui vont à la messe tous les dimanches. Bon, ce qui, entre nous soit dit, fait quand même déjà beaucoup. Parce que,
mais il y en a davantage qui vont à la messe de minuit.
Alors, voilà, première chose. Et deuxièmement, vous avez, on ne va pas faire sociologie religieuse, mais enfin, vous avez ceux qui vont uniquement au moment de Pâques et au moment de Noël. Bon, mais vous avez quand même toujours 66% ou 67% des Français qui se disent catholiques. Bon. Donc, la religion, l'appartenance à la religion est toujours un phénomène qui est présent et qui dure. Voilà. Alors, donc, ça, c'est les éléments, je dirais, de continuité. Après, vous avez à côté de cela, et vous faisiez allusion à Noël. Vous avez à côté de cela l'idée suivant laquelle toutes ces fêtes religieuses doivent, d'une certaine façon, et vous avez employé un terme qui a beaucoup de sens, séculariser. Ce qui veut dire à la fois qu'ils appartiennent au siècle, bon, mais aussi l'idée c'est de les vider de leur contenu religieux. Alors ça marche et ça marche pas. À la fois, effectivement, les vacances de Pâques sont devenues les vacances de printemps. À la fois, le caractère central des fêtes religieuses dans le calendrier tente à disparaître progressivement.
Ce qui est logique, somme toute, je me permets de le préciser pour Pâques, puisque de manière générale, les vacances dites de Pâques ont souvent lieu bien après la fête de Pâques.
Absolument, mais on était toujours dans l'idée qui était celle des révolutionnaires. Hein. Enfin, souvenons-nous des révolutionnaires qui voulaient à la fois changer le calendrier, à la fois débaptiser tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, pouvait faire référence à la religion. Et donc, ce projet-là, qui était celui, disons, de la modernité, a montré tout à fait ses limites. La question qu'il faut se poser sous-jacente à tout cela, c'est de dire, est-ce que nous vivons dans une laïcité qui est capable d'accepter une part de religieux dans le calendrier, dans les fêtes, dans la pratique, dans l'expression, ou une laïcité qui a été promue par certains dans notre République, une laïcité exclusive. C'est-à-dire, on est tellement en laïcité que la religion n'a plus son mot à dire ou ne peut plus s'exprimer. Voilà. Et c'est ce partage entre les deux qui ne se retrouve d'une certaine façon qu'en France, enfin, je veux dire, dans une laïcité un peu crispée, ce qui est le cas ici, qui ne se trouve pas ailleurs. Voilà. Donc, on peut être en régime de laïcité tout en acceptant des éléments. Et il me semble qu'il y a eu une conjonction de deux éléments. Un, le souci, disons révolutionnaire, de supprimer toute référence à la religion comme étant un élément structurant du champ social. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, et ça, on peut critiquer les deux aspects. Deuxième aspect, la récupération par les marchands de toutes ces fêtes-là. Donc, vous faisiez effectivement référence à la fête de Noël.
On peut citer également Mardi Gras, puisque dans l'imagerie populaire, Mardi Gras, c'est davantage un moment où on se déguise qu'un moment religieux.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, parce que c'est toujours une chose difficile, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les fêtes chrétiennes, il y a à la fois du religieux et à la fois du, disons, paganisme ou, disons, du carnaval. Voilà. Quand on dit carnaval, le carnaval est une expression chrétienne de la fête. Quand on inverse les rôles, quand tout est renversé, c'est ça le carnaval. Et ce carnaval a toujours eu sa place dans un calendrier chrétien.
Donc, oui, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent aujourd'hui la notion de carême et qui pourtant vont être très contents d'aller se déguiser pour le Mardi Gras.
Oui, non, mais se déguiser, faire la fête, être dans une fête qui n'a rien d'une fête religieuse, mais qui s'intègre dans un calendrier religieux, ça a toujours existé. Alors on croit maintenant que parce que les fêtes sont récupérées par les marchands, elles sont vidées de toute signification. Ce contre quoi je m'insurge, c'est de deux choses. La première, c'est que, d'une certaine façon, ce que l'on perd dans le sens qui est voulu, enfin dans la signification religieuse qui est voulue aussi par les Français, qui sont attachés à ces fêtes-là et au sens religieux que cela peut avoir. Religieux, ce n'est pas uniquement la pratique, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir une foi. C'est aussi quelque chose qui est un peu diffus et qui permet de structurer à la fois sa compréhension du monde, son calendrier, et puis avoir des repères fixes auxquels on peut se rattacher. Bon, c'est ça aussi le religieux.
Mais alors même si Halloween existe et que sa prééminence est exagérée par les médias, ça ne veut pas dire pour autant que Halloween, qui a lieu dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, va prendre le pas totalement sur la Toussaint. Regarde aux États-Unis, même si c'est une société peut-être un peu plus religieuse que nous et qui assume ses croyances. Aux États-Unis, les fêtes d'Halloween existent depuis longtemps et pourtant, ça n'a pas pris le pas sur les événements religieux.
Absolument. Alors, il y a deux choses qu'il faut dire. La première, c'est qu'aux États-Unis, la fête d'Halloween est très différente de la fête d'Halloween en France telle qu'elle a existé. La fête d'Halloween aux États-Unis est beaucoup plus familiale, beaucoup plus festive. Voilà. Et cette fête, beaucoup plus familiale et beaucoup plus festive, a toujours eu sa place dans une société qui, bien que laïque, hein, est une société éminemment chrétienne. Première chose. Deuxièmement, cette substitution ou ce risque de substitution de l'un par l'autre a montré ses limites justement, et donc on a assisté depuis 2 ans ou 3 ans à un relatif déclin de la fête d'Halloween.
En France uniquement.
En France, pourquoi ? Parce que les Français se sont bien rendus compte, et assez vite, que la fête d'Halloween était moins une fête qu'une occasion d'acheter. Que donc les marchands avaient récupéré cette fête-là. Et que donc, quand il n'y a rien derrière, quand il n'y a qu'une incitation encore plus forte que celle qui existe par ailleurs à consommer et acheter, à une forme d'excitation un peu vaine pour toujours se déguiser, acheter, etc. À ce moment-là, les Français ont considéré qu'il n'y avait d'une certaine façon rien. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans de la fête, au sens du plaisir de se retrouver ensemble, de faire des choses ensemble, etc. Mais dans une stimulation supplémentaire du consumérisme ambiant pour continuer à acheter. Ça, c'est la première raison du déclin. Et la deuxième raison du déclin, et ça j'y tiens, c'est que nous sommes dans un monde qui est, peut-être depuis 2001 ou peut-être depuis toujours, enfin bref, qui est assez anxiogène. Et l'idée de rajouter de l'anxiété, de rajouter du sang de vampire, de l'angoisse, de la mort qui n'est pas une mort en particulier, mais qui est la mort en général. Bon, le fait de rajouter tout cela a été considéré par les Français de façon générale.
Quand vous dites les Français, vous dites les adultes, les parents.
Les parents qui sont en charge des enfants et qui donc considèrent qu'il y a une peur qui structure et une peur qui alimente l'angoisse des enfants. Voilà. Et cette fête d'Halloween était plutôt une deuxième peur qu'une première.
Alors, justement, revenons sur les enfants rois, les enfants qui se délectent des plaisirs d'Halloween. Oui. C'est le seul jour de l'année où ils se retrouvent enfin au pouvoir. Oui. Vous avez évoqué cette problématique dans votre ouvrage. Vous êtes mis à la place de quelqu'un qui s'insurgerait contre votre côté, on va dire, donneur de leçons ou le fait que vous critiquiez ce moment festif, joyeux. Et vous dites que la personne, vous mettez à la place cette personne qui vous critiquerait et qui dirait « c'est une blague, c'est un jeu, une farce où rien n'est vrai ». Alors, est-ce que l'inversion des rôles est vraiment malsaine ou à l'instar des enfants qui aiment porter des chaussures trop grandes de leurs parents, ce n'est qu'un jeu temporaire qui finalement ne nuit à personne?
Oui. Premièrement, je crois que vous avez raison, l'enfant roi. Le slogan de Disneyland pour Halloween en 2007, parce que je l'ai relevé année par année, c'est « Tout est permis ». Je rappelle celui de 2002 qui n'était pas non plus piqué des hannetons, qui était « Quitte à être laide ». Autant être méchante. Ce qui laissait à supposer qu'effectivement, la laideur tant vantée par les sorcières d'Halloween pouvait s'accompagner ou devait s'accompagner de la méchanceté. Alors, revenons à votre question, qui est effectivement, est-ce qu'on est dans une forme de prise de pouvoir temporaire des enfants, ou est-ce que ce qui est toujours plaisant, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Alors, vous avez raison, il y a à la fois un élément absolument anodin qui est cette prise de pouvoir, entre guillemets, cette toute-puissance qui est donnée aux enfants temporairement l'espace d'un moment. La seule question que nous devons nous poser, c'est de savoir est-ce que ça ne participe pas d'un climat général qui, lui, tente à déresponsabiliser d'une certaine façon les parents, à considérer que l'enfant est de plus en plus au centre de toutes les attentions et donc a, d'une certaine façon, le pouvoir de consommer, le pouvoir d'indiquer la consommation, etc. etc. Bon. Et troisième chose, c'est, alors en termes psychologiques, c'est quel est le rôle ou comment est-ce que l'enfant est susceptible d'apprendre la mort? Ou pour le dire autrement, comment est-ce qu'il est susceptible d'apprendre la limite? Tous les psychologues savent que jusqu'à 6 ans, 7 ans, ce qui est normal, les enfants ont un sentiment psychologique de toute puissance. Bon, et que progressivement, ces enfants apprennent la limite. La limite qu'ils s'imposent, ils ne sont pas seuls, leur mère n'est pas à leur entière disposition. Voilà, ils ne sont pas rois, ils sont un élément parmi d'autres.
Vous voulez dire que la fête d'Halloween pourrait aller dans le mauvais sens, dans la mesure où ça laisserait perdurer chez les enfants cette idée de toute puissance?
Non, je dis simplement que la fête d'Halloween, soit on la considère, et on a peut-être raison, comme quelque chose de très temporaire, de très limité, etc. Moi, je considère que c'est un symptôme d'une forme d'inversion des valeurs ou d'inversion de la responsabilité, de sorte que les enfants ont du mal, aujourd'hui, psychologiquement, à faire l'apprentissage de la limite.
Alors justement, vous évoquez, je vous évoquais le fait que les enfants, à cause d'Halloween, mais de bien d'autres facteurs, manquent de repères psychologiques. Vous évoquez même un rapport des professeurs Legrain et Tubiana, Maurice Tubiana, qui est membre de l'Académie des sciences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage?
Oui, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est de... Enfin, partons, si vous voulez, de l'inverse, qui est de dire, y a-t-il ou n'y a-t-il pas un mal-être des adolescents ou des jeunes enfants dans un monde qui, d'une certaine façon, leur est consacré? C'est-à-dire qu'on est là dans une forme de paradoxe. À la fois, les enfants ont tout, et ils ont leurs parents à disposition, et en même temps, ils dégagent un sentiment de mal-être qui se retrouve dans ne serait-ce que les pensées suicidaires qui traversent les enfants. Et donc, ce rapport que vous citez donnait des chiffres absolument effrayants de ces pensées suicidaires que les jeunes adolescents ont. Voilà. Donc, la question qui se pose, c'est que est-ce que l'apprentissage de la limite se fait naturellement ou est-ce qu'il se fait nécessairement par un travail négatif pour limiter la toute-puissance de l'enfant? Donc, la question que je me pose et la question que posaient les professeurs Tubiana et Legrain, c'était de dire, est-ce que la société n'a pas à encourager tout ce qui, de manière ou d'une autre, peut limiter le sentiment de quand ils sont à l'âge d'être dans cette limite-là, de limiter le sentiment de la toute-puissance au profit de l'apprentissage de la relativité de leur place dans la société, dans la famille, etc. Voilà.
Alors, vous dites que tout ça se structure au moment de la petite enfance, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une fête qui est très ponctuelle comme Halloween, ce n'est pas dépourvu de toute valeur qui pourrait nuire aux enfants ou qui pourrait leur poser question? Il s'agit juste de demander des bonbons en se déguisant en monstre.
Non, mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'on peut toujours considérer les choses séparément les unes des autres. Voilà, on peut toujours considérer qu'effectivement, la fête d'Halloween, et vous avez raison, ne dure qu'une après-midi, c'est pas grand-chose, etc. Voilà. Ce que je dis simplement, c'est que si elle est apparue à un certain moment, c'est-à-dire 95, 97, 98, 2000, 2002, si elle est apparue à ce moment-là, ce n'est pas pour rien, d'une part, que deuxièmement, elle est en consonance avec tout ce que nous constatons par ailleurs sur la place centrale de l'enfant. Et en plus de cela, s'est mis en place ou s'est développé un imaginaire. Je faisais référence à Buffy, qui est toujours regardé beaucoup plus par les enfants et que les parents ne voient même pas. Buffy, donc, qui est un vampire. Tout ce monde de l'imaginaire, celui d'Harry Potter aussi. Donc, celui de la magie, celui des sorcières, celui des mondes parallèles, celui des pouvoirs. Ce monde-là, qui est un monde archaïque, d'une certaine façon.
Et puis, c'était aussi Arthur et les mini-mois de...
Aussi, voilà, tous ces films-là, et on pourrait les multiplier à l'infini, contribuent au contraire à donner le sentiment qu'il y a une forme de toute-puissance sans retour. J'aime bien toujours prendre l'exemple de Mowgli. Bruno Bettelheim a bien montré que le conte de fées, et nous sommes aussi là dans une partie imaginaire de conte de fées, est absolument indispensable dans la structuration de l'imaginaire des enfants. Tout le monde sait que le récit structure, et il structure aussi les enfants. Bon. Mowgli, lui, fait ce détour par l'imaginaire. Bon. Mais, à la fin, il revient dans le monde des hommes. Voilà. Il retrouve sa place. Le moment, effectivement, de l'amusement avec Balou, etc., se termine. Voilà. Ma question, qui englobe Halloween, mais qui englobe aussi beaucoup d'autres éléments, c'est de dire, ne sommes-nous pas dans un apprentissage qui ne revient pas, dans un sentiment de toute puissance ou d'imaginaire qui ne revient pas vers les contraintes du monde réel?
Dans la mesure où Halloween est quelque part un peu imposé aux enfants et inscrit comme une obligation
Non, mais là, en l'occurrence, je prenais Halloween comme un symptôme, voilà, plutôt que comme tout ce que je vous dis n'est pas uniquement relatif à Halloween, mais est relatif à tout ce qui se développe autour et avec Halloween.
Donc voilà. Aujourd'hui, dans notre société, alors, et ce sera ma dernière question, on va faire un bilan justement de cette fête d'Halloween quelques années après la sortie de votre ouvrage. Où en est-on ? Comment vous pensez que les choses vont évoluer dans les années à venir par rapport à cette célébration d'Halloween en France ?
Alors, si vous voulez, ça m'a étonné parce qu'effectivement, quand ce livre est sorti, on était dans la phase de développement, de promotion, de développement de la fête d'Halloween.
Et vous vous posiez en contre-pied d'ailleurs.
J'essayais effectivement d'avoir un discours de compréhension rationnelle de ce phénomène irrationnel et de cette promotion médiatique irrationnelle d'Halloween. Oui. Donc, la question que je me suis posée, c'était de savoir si on pouvait poser un discours le plus cohérent, le plus réfléchi sur quelque chose qui ne l'était pas. J'ai été surpris, effectivement, de constater que en 2004, en 2005, nous sommes arrivés en France à une forme de plateau, que la fête d'Halloween a commencé progressivement à perdre de son importance à partir de ce moment-là, et que, d'une certaine façon, elle est redevenue maintenant beaucoup moins importante qu'elle l'était il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Alors, ce qui laisse à penser que effectivement les marchands ne peuvent pas prendre les Français uniquement pour des gogos, et que à un moment donné les gens se rendent bien compte que la fête c'est aussi de la gratuité, du lien, de la réjouissance, de la mise en commun, voilà, et que tout cela, si tout cela n'existe pas, à ce moment-là, on en revient à quelque chose de forcé, de uniquement axé sur la marchandise, sur l'achat, sur la consommation, sur l'excitation et, en l'occurrence, pour ce qui concerne Halloween, sur quelque chose d'anxiogène, voilà, quelque chose qui pousse à l'anxiété plutôt qu'il ne permet de résorber cette anxiété. Ce qui est le cas du carnaval. Le carnaval est là justement pour résorber l'anxiété, pour une soupape de libération. Voilà. En l'occurrence, Halloween, les Français, me semble-t-il, ont considéré, un, qu'il se passait moins de choses au moment d'Halloween qu'au moment de la Toussaint, d'où la permanence de la Toussaint, d'une part, et deuxièmement, que Halloween était promu par des marchands dans la seule idée de vendre et de vendre de plus en plus, et que le contenu proprement festif était des plus limités. Et aussi, l'ensemble des Français ont dû considérer que l'angoisse, l'anxiété qui était générée au moment d'Halloween ne correspondait pas, ou n'était pas nécessaire, ou était peut-être un peu trop dans un monde qui l'était naturellement. Donc, le désengagement progressif des Français à l'égard d'Halloween s'est fait à partir de cette triple prise de conscience.
Très bien, alors c'est une réflexion passionnante que vous venez nous livrer, Damien Le Guay. Je vous remercie infiniment d'être venu nous parler de votre ouvrage. Je rappelle La face cachée d'Halloween, publié aux éditions du Cerf. Nous ne pouvons malheureusement pas évoquer toutes les réflexions que vous avez développées dans cet ouvrage, mais j'invite nos auditeurs à se procurer le livre. Alors vous pourrez revenir dans quelques années nous dire là où les gens en sont avec Halloween en France, et nous verrons si vous avez vu juste. Alors depuis la sortie de ce premier opus, vous avez, pour notre plus grand plaisir, récidivé, puisque vous avez publié en 2003 également « Qu'avons-nous perdu en perdant la mort ?» sur une thématique assez proche de celle que nous avons évoquée aujourd'hui. En 2005, vous avez signé « L'Empire de la télé-réalité », auquel nous avons déjà consacré une émission sur Canal Académie. Alors c'est une émission que vous pouvez retrouver en libre téléchargement sur notre site. Damien Le Guay, je vous remercie encore d'être venu.
C'est moi qui vous remercie.
Nous livrer votre pensée. On vous retrouve bientôt à votre plage de journaliste cette fois.
Merci
à bientôt.
Merci.